Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à tous. Ici, on fêtait le dernier Vue d'Allemagne de 2016 avec une petite bière. Cette année, l'Allemagne célébrait les 500 ans du décret sur la pureté de sa boisson nationale. L'occasion de se rendre à Munich pour voir de quoi il retourne. En seconde partie, nous reviendrons sur un autre anniversaire, celui de la dissolution de l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. C'était le 26 décembre 1991. C'est Constance Unketze au micro. Prost!
There is no place to hide now. There is no need to be here. She left me all behind now. I cry into my beer.
Nous écrivons en l'an de grâce 1516. Le futur empereur Charles Quint monte sur le trône d'Espagne. Des Européens posent pour la première fois le pied en Argentine et en Uruguay et quelque part en Franconie, dans le nord de l'actuelle Bavière. Deux ducs signent un décret détaillant ce qu'est le droit de contenir une bière. C'est la loi sur la pureté de la bière, qui se voulait protectrice du consommateur, puisqu'à l'époque, cette boisson, qui était déjà largement consommée, pouvait contenir des fleurs, des copeaux de bois ou même du goudron. Cette année, le décret a fêté en grande pompe ses 500 ans d'existence. Isabelle Hartmann, notre correspondante à Munich, l'actuelle capitale mondiale de la bière s'il en est, s'est penchée sur ce qui est la plus vieille réglementation alimentaire au monde.
Bier ist Gottes Geschenk an die Menschheit.
Un cadeau de Dieu à l'humanité. Voilà ce que pensent les authentiques amateurs de la bière, de cette boisson à la robe d'or. Nous voulons séant que en toutes nos villes, marchés et campagnes, aucun autre élément pour notre bière, corge, houblon et eau, ne soit utilisé et brassé. La loi sur la pureté de la bière, c'est cela. Quelques mots inscrits dans le règlement régional bavarois de 1516, qui avait pour vocation d'unifier les textes de loi entre les différentes régions de la Bavière. Les uns alors ajoutaient du malt, les autres des herbes aromatiques, de la noix de muscade ou du vermouth à leur bière. En 1516, c'en est d'abord fini de ces mélanges. Et 500 ans plus tard, les Bavarois sont fiers de célébrer un texte qui est aujourd'hui la plus ancienne réglementation alimentaire en vigueur au monde. Une nouvelle étape dans la longue histoire d'un excellent marketing. Car la Bavière n'est pas devenue par hasard la capitale mondiale de la bière, explique Richard Leubel. Il est le commissaire de l'exposition régionale sur les 500 ans de la loi sur la pureté de la bière à Aldesbach.
Pendant longtemps, personne ne connaissait la bière bavaroise. Mais au XIXe siècle, les brasseurs de la région participent aux expositions universelles et inventent le cliché bavarois avec danse et chants soi-disant traditionnels. Même si les chanteurs et danseurs viennent du nord de l'Italie. Et en même temps, ils servent leur bière. Ça intéresse les gens de Paris, Londres ou Chicago. On a tellement d'Allemands chez nous. Vous pouvez venir nous construire une brasserie ? Mais bien sûr que les brasseurs bavarois le peuvent.
Les brasseurs sont des notables aux connexions étroites avec les politiciens et les scientifiques. Ils payent beaucoup d'impôts, soutiennent la recherche et investissent des millions dans l'industrialisation du brassage. Et quand cela leur convient, ils ressortent des archives le texte de 1516, cette fameuse loi sur la pureté de la bière, qui durant des siècles n'avait pourtant pratiquement aucune valeur. Dans les années 1950-1960, les brasseurs bavarois s'inquiètent en effet de l'import de bières sucrées venues d'ailleurs. Ils brandissent alors la loi du XVIe siècle devant les instances européennes pour que l'appellation « bière » soit protégée, avec un succès partiel. L'Allemagne et la Bavière en premier lieu parviennent ainsi à se vendre dans le monde entier comme les défenseurs de la vraie bière. Aujourd'hui pourtant, la diversité s'émousse. Si la Bavière compte encore plus de 600 brasseries et microbrasseries, la concentration fait rage, explique Konstantin Lannert, commissaire de l'exposition sur le pouvoir et la bière à Munich.
Au XVIIIe siècle, on trouvait encore 70 brasseries rien que dans le centre de Munich. Aujourd'hui, il n'existe plus que 6 grandes brasseries dans la ville qui aiment se présenter comme les véritables, les authentiques fabricants.
Mais seuls 2 de ces 6 grands brasseurs sont encore munichois. Les autres appartiennent aux géants Heineken ou InBev. Ironie de l'histoire, la renaissance de la diversité pourrait venir d'un pays que les Bavarois aiment à dénigrer pour sa bière, Konstantin Lannert.
Vers la fin des années 1980, s'est développé aux États-Unis le mouvement des craft beers, ces bières brassées de manière artisanale. Des micro-brasseries sont apparues ayant pour but de créer des bières particulièrement savoureuses et originales. Je pense que ce mouvement n'en est qu'à ses débuts, surtout à Munich et en Allemagne, et qu'on va encore beaucoup en entendre parler et en boire.
Les amateurs de boissons sans additifs n'ont pas à se faire de soucis. Ces nouvelles bières artisanales ne sont composées que d'eau, de houblon, d'orge et de malt, comme la loi sur la pureté de la bière de 1516 l'impose aujourd'hui en Allemagne. Et qui sait, peut-être encore pour les 500 années à venir.
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Vous êtes à l'écoute de Vue d'Allemagne et de Mikhail Gorbatchev le jour où il a annoncé sa démission du poste de président de l'URSS. C'était le 25 décembre 1991. Le lendemain, 26 décembre, la dissolution de l'Empire soviétique était officialisée. Près de 70 ans après sa création, le colosse s'effondrait en quelques mois. On parle de tout cela avec Yann Bro, il est co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation à l'Université du Québec à Montréal. Il revient d'abord sur les principaux facteurs qui ont conduit à la chute de l'URSS.
Il y a des facteurs de long terme qui s'inscrivent dans l'incapacité de l'URSS de maintenir des taux de croissance économique comparables à ceux en Occident capitaliste. Il faut se rappeler que la légitimité d'un pouvoir à partie unique, d'un pouvoir centralisé, était basée sur la prétention de pouvoir offrir aux travailleurs, aux travailleuses, des conditions d'existence matérielle supérieures à celles qu'on observait en Occident. Donc, il y a eu une perte progressive de légitimité. Et devant cette espèce de vacuum idéologique où on ne croyait plus que le communisme était porteur d'un projet émancipateur pour l'ensemble de l'humanité, on a assisté à un repli identitaire, à une montée des nationalismes, non seulement dans la périphérie, mais en Russie même. Et c'est la Russie qui a été le principal architecte du démantèlement de l'URSS.
Et quel a été le rôle de l'armée soviétique dans tout ça?
L'armée soviétique a joué, elle était complètement déboussolée. Elle a joué un profil bas, attendant, comme tout le monde, comment les choses allaient se réorganiser. Elle était dans un état un peu lamentable dans la mesure où les chaînes de commandement centralisées étaient rompues. Pour ce qui était des forces conventionnelles, les troupes sur le terrain vont être nationalisées. Tout ça s'est déroulé de façon pacifique.
Alors, vous le disiez, la Russie a joué un rôle essentiel dans la dissolution de l'URSS.
Oui.
Et curieusement, aujourd'hui, on assiste plutôt à un retournement de l'histoire. On a pu parler d'ostalgie, par exemple, pour l'Allemagne de l'Est. Est-ce qu'on a un sentiment similaire, une nostalgie de l'URSS? Et comment expliquer que ça se passe justement en Russie?
Ben, je vous dirais que la principale ligne d'explication, c'est un sentiment de frustration très fort qu'on ressent chez les Russes de ne pas avoir pu bénéficier du capital de sympathie qu'on attendait de l'Occident pour le rôle actif qu'elle avait joué dans la libération d'abord de l'Europe de l'Est, le démantèlement du mur de Berlin et dans la transition politique. Et ce à quoi on a eu droit, ça a été plutôt des chancelleries occidentales qui ont profité de l'état de faiblesse de la Russie pour l'acculer à la périphérie du système économique international, pour procéder assez rapidement à des vagues d'élargissement de l'Alliance transatlantique. Et à cela s'ajoute le traumatisme économique extrêmement grave qui est survenu au lendemain du démantèlement de l'URSS, même si ça avait commencé un peu avant avec les réformes libérales. Tout ça a généré un grand sentiment d'insécurité économique, un grand sentiment de frustration. Et maintenant, ce à quoi on assiste, c'est un peu un sentiment revanchiste d'une Russie qui comprend qu'elle ne peut compter que sur ses propres forces pour tenter de se relever, de faire valoir sa voix sur la scène internationale, donc en s'engageant dans des confrontations locales en Ukraine, en Syrie.
Et
donc,
c'est vrai que
oui,
on reparle de guerre froide et de cette confrontation Est-Ouest.
Oui, moi je fais attention avec ceux qui parlent d'un retour à la guerre froide. Les Russes n'ont plus cette ambition messianique qui avait été la leur pendant la période soviétique. Par contre, il y a un problème de fond qui existe actuellement, qui est celui de la priorité du politique sur l'économique. On voit les grands acteurs économiques comme étant des alliés du pouvoir politique, et c'est ce qui dérange. On accepte mal qu'un acteur économique puisse travailler en symbiose avec le pouvoir politique. Ça, c'est inquiétant pour les Européens. Ça complique grandement la qualité de leurs relations.
Qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'héritage de cet empire? Est-ce qu'il y a aussi des aspects positifs?
C'est une question qui est complexe, qui est surtout très polarisante, parce que l'URSS laissait un héritage historique à deux visages. D'une part, un pouvoir politique totalitaire qui a fait peu cas des droits humains, alors que pour une bonne part de la population, l'accession universelle à des soins de santé, la qualité de l'éducation qui était offerte à la population, la stabilité d'emploi. Il y avait des éléments qui étaient perçus très positivement par la population. Et Poutine va tâcher très habilement d'essayer de réconcilier la valeur des expériences historiques. Donc ça, avec quoi on assiste, c'est une nouvelle identité russe qui essaie d'aller puiser dans les éléments positifs de son passé tsariste, de son passé soviétique et de son passé post-soviétique pour créer une espèce d'assemblage qui vise à limiter la polarisation de l'opinion publique.
Yann Brault de l'Université du Québec à Montréal, une interview que vous pouvez retrouver sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique médiathèque. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur notre page d'accueil. Si vous tapez dans la barre de recherche en haut à droite URSS, vous tomberez sur une quantité de reportages et d'émissions passionnantes sur le sujet, notamment sur les relations entre l'Afrique et l'Empire soviétique. Vue d'Allemagne vous souhaite einen guten Rutsch, une bonne glissade dans l'année 2017. On se retrouve la semaine et l'année prochaine. Tschüss et portez-vous bien.